Il est 15h, c'est l'heure des petits éclats de lire. Bonjour Claudine.
Bonjour. Alors aujourd'hui, nous allons vous présenter les livres choisis mardi à 18h30 au Poivre d'Âne, le comité de lecture d'éclats de lire. Il se déroule un mois sur deux à la librairie. Donc avec Jeanne, aujourd'hui, nous aurons 6 livres à vous présenter. Pour une fois, teintés de philosophie et beaucoup moins d'humour, mais très intéressants. Alors je vais quand même vous parler d'hier, le 11 mars, Éclat de lire a démarré le printemps des poètes, devant la médiathèque. Pendant que Jérémy Fischer, notre illustrateur en résidence, composait une grande fresque en papier découpé, une cinquantaine d'enfants des quartiers et leurs accompagnateurs d'Éclat de lire ont passé une heure fort agréable en poésie. Une vingtaine d'enfants ont lu des poèmes au micro, certains avaient composé et envoyé des poèmes pour le concours, et bien sûr, ils ont tous été récompensés. Les animateurs d'Éclat de lire ont lu des poèmes sur le thème de l'insurrection et l'ambiance musicale a été très bien assurée par Marine, accordéon, guitare et chant repris par le public. Excellente participation des enfants. L'après-midi s'est terminé bien sûr par un goûter. Et je ne résiste pas au plaisir de vous lire le poème de Prévert qui a beaucoup plu aux filles. Quand? Comment? Comment? Pourquoi? Pourquoi? Il pleut. Il pleut. Il fait beau. Il fait du soleil. Il est tôt. Il se fait tard. Il. Toujours il. Toujours il qui fait du soleil. Toujours il. Pourquoi pas elle? Pourtant, elle aussi souvent se fait belle.
Je vais commencer par vous présenter un livre qui s'appelle « Mon tout petit ». Il est de Germano Zullo, ça s'écrit Z-U-2-L-O, et Albertine, qui est l'illustratrice, et l'éditeur, c'est La Joie de lire. Donc, c'est un petit livre qui se trouve dans son coffret, un coffret tout plein de fleurs et de petites plantes dessinées sur la totalité. Et quand on l'ouvre, on découvre les dessins au crayon gris. Les dessins au crayon gris qui vont vous raconter, c'est une bande dessinée, l'histoire d'une mère et de son enfant. En fait, leur amour, leur lien depuis la naissance, même avant d'ailleurs, de l'enfant jusqu'à la disparition de la mère. Albertine, la dessinatrice, a déjà publié beaucoup d'albums pour enfants. Des albums qui sont assez gais, colorés, mais toujours avec un coup de crayon très fin et très léger. Et ce coup de crayon très fin, très léger, en crayon gris, c'est ce qu'on va retrouver tout le long du livre, ici, sur chaque page. C'est extrêmement sobre, juste le crayon gris et c'est tout, pas de couleur. La première page présente la maman. Toute seule, grande, droite, avec ses petits talons hauts, sa robe toute simple. Puis après, elle tient quelque chose dans les mains, quelque chose de tout petit, semble-t-il. Et il est écrit « Te voici ». Juste le fait que son pied soit levé, en même temps que son bras, ça montre que justement, elle tient très bien, très fort contre elle, ce qui est l'objet de ses soins. À la page suivante, on voit bien que c'est un enfant. Enfin. Page suivante. Je t'attendais. Il est tout petit dans le creux de son coude. Mon bébé, mon enfant, mon tout petit. Elle le tient entre ses deux mains. L'enfant a grandi déjà un petit peu. Tu es là maintenant. De ses deux mains, elle le tient. Avec moi. Elle l'a contre elle, tout à fait contre elle, et comme s'il dormait sur elle. « Je t'aime !» Il est renversé les pieds en l'air et elle le regarde. Il est un petit peu plus grand. Et ensuite, elle le fait tourner. C'est une vraie ronde. Et tu sais, j'ai tellement de choses à te dire. Elle tourne avec lui, elle le tient par les bras, ils font une sorte de ronde. Tant et tant de choses. Il faut que je te raconte tout. Elle le tient à bout de bras. Tout. Je dois tout te raconter. L'enfant est de plus en plus grand. Du début jusqu'à la fin. C'est très important. Il dort sur l'épaule de sa mère. Tu sais, mon bébé, mon enfant, mon tout petit. Et là, il commence à devenir vraiment très grand. Et d'ailleurs, on dirait un adulte. C'est une longue histoire. Un peu compliquée. Il est accroché au cou de sa mère. Et maintenant, il lui arrive presque à l'épaule. Mais au fond, c'est très simple. C'est une histoire. Il est debout à côté d'elle, il lui tient les bras. Une grande histoire, ils sont main dans la main. Notre histoire, et cette fois c'est lui qui le prend, qui la prend par le cou et qui la soulève encore. Et elle est très belle, tu sais. Même s'il n'y a pas vraiment de début, il tourne avec elle comme elle avait tourné avec lui. Et pas vraiment de fin. Et encore moins de milieu. C'est toujours la maman qui danse retenue par l'enfant qui devient immense et la maman rapetisse. D'ailleurs, je ne sais pas très bien par où commencer. Vois-tu? Cette histoire-là, elle devient petite, il la prend dans ses bras. Elle est un peu particulière. Il l'assoit dans le creux de son coude. Mais c'est comme ça. Il l'a sur le bout de son bras. C'est notre histoire. Elle s'approche de son visage. Et quand je te l'aurai racontée, elle devient très petite. Elle t'appartiendra. Pour toujours. Les deux mains du garçon se referment. Et à la page suivante, mon bébé, mon enfant, mon tout petit, il n'y a plus rien. Donc, comme je vous disais, d'une façon assez minimaliste pour les dessins, au crayon de papier, simplissime, des noirs et des blancs, juste des traits légers qui traduisent l'intensité et l'émotion peut-être aussi qu'on éprouve à lire ce livre. Ce dessin dit tout l'amour d'une mère pour son enfant, pour son garçon, son fils, puisque c'est un garçon, et tout l'amour du garçon pour elle. C'est un album, en fait, qui raconte un peu le cycle de la vie, avec très peu de mots, juste le minimum aussi, en harmonie avec les images, qui sont elles aussi très minimalistes. Donc un livre qu'on pourrait offrir pour tous les âges, je pense, hein, Claudine. Je redis le titre, « Mon tout petit, Germano Zullo, Albertine, la joie de lire ». Et l'âge, eh bien, c'est tous les âges. Voilà.
Alors, notre second livre est plus coloré. Il s'intitule « Le monde t'appartient » de Riccardo Bozzi et d'Olympia Zangoli chez Grasset Jeunesse. C'est un album aux couleurs joyeuses. La vie est là, simple et tranquille. « Le monde t'appartient ». Sur la double page blanche, une boule verte. « Et tu appartiens au monde ». Une boule blanche sur fond rouge. Page suivante. Tu es libre, c'est une chance. Alors, des figures géométriques, carrés, rectangles, cercles, rouges, verts, roses, dansent sur les pages. Tu es libre, même s'il y a parfois des limites. Alors là, les mêmes figures sont bien rangées côte à côte et forment un carré très sage. Page suivante. Tu es libre de croire en ce que tu veux. Un fantôme aux yeux verts flotte dans la page verte. Page suivante. Ton ami aussi est libre de croire en ce qu'il veut ou de ne croire en rien. La page est blanche. Tout est permis. Tu es libre d'aimer qui tu veux. Et l'illustration nous montre une main qui tient délicatement la ficelle d'un cœur ballon. Et tu es libre de ne plus aimer si tu y arrives. La main a lâché la ficelle, le cœur s'envole. Tu es libre d'être aimé. Fenêtre fleurie ou pas, le volet est fermé. Tu es libre de jouer, un cerf-volant virevolte. Jouer, jouer, jouer encore. Alors avec le cerf-volant, on voit des silhouettes de ballons, de legos, de dinosaures, de feutres, tout un univers de jeux. Tu es libre de tout tenter. Et à côté, voici un vélo très stylisé. Même si ça peut faire mal parfois. Et là, on a une goutte de sang et un sparadrap très évocateur des chutes de vélo. Tu es libre d'être heureux. Là, on a un cornet de glace à trois boules. Mais ce n'est pas toujours facile. Les boules et le cornet sont tout à fait en désordre. Tu es libre d'être malheureux aussi. Une feuille de ginkgo, c'est l'automne. Et d'autres feuilles tombent. Ce qui est beaucoup plus facile d'être malheureux. Mais même si ça paraît bizarre, ce n'est pas inutile. Alors là, la pluie tombe dru sur un parapluie rouge. Bien au contraire, et l'arc-en-ciel s'étale sur la double page. Tu es libre, même s'il y a parfois des limites. Mais ces limites, si tu le veux vraiment, tu peux les dépasser. Alors, une barrière de bois rouge, comme on trouve dans les prés, traverse la double page, et dans une ouverture, fleurit une tulipe. Parce que le monde t'appartient, boule blanche sur fond vert, et tu appartiens au monde, boule rouge sur fond blanc. Alors, dans ce livre, on joue avec les couleurs, les formes stylisées. Cet album pour enfants, à partir de 5 ans sans doute, est très tonique. On se sent fort, enthousiaste. Nous sommes au monde, libres, et le monde est beau. Coloré, joyeux, ce monde qui t'appartient. Alors, en ce printemps des poètes, je me suis souvenue d'une petite fille qui m'a donné un jour cette définition de l'arc-en-ciel. C'est le soleil qui fait des rêves avec la pluie. Ça m'a tout à fait penser à ça, ce livre coloré. Donc, le titre, Le monde t'appartient, de Riccardo Bozzi et Olympia Zagnoli, chez Grasset et Jeunesse. Voilà.
Je vais vous parler maintenant d'un autre livre tout à fait différent, qui est un livre de photos. Il s'appelle « Le petit monde d'Eliot Erwitt ». Erwitt s'écrit E-R-W-I-2-T. En sous-titre, « Irrésistible Eliot Erwitt ». Les images sont choisies par Marie Houblon. Et c'est aux éditions Tourbillon. Eliot Erwitt, c'est un photographe américain très célèbre qui est né en 1928. Il n'est pas tout jeune. Il a photographié beaucoup, il a photographié tous les États-Unis, il a photographié l'Europe. Et il a publié pas mal de livres. Et dans ce livre-ci, nous avons une sorte de vision de photo de l'enfance vue à travers les yeux du photographe. Et le prétexte du lien entre toutes ces photos, toutes ces images, ce sont des verbes qui ont été choisis pour les présenter et qui suggèrent peut-être et qui donnent envie d'imaginer ce qu'il a pu se passer au cours de cette photo. Donc, je vais vous décrire quelques photos pour que vous ayez l'idée de ce qui s'y trouve avec le verbe qui l'accompagne. Au début, le premier, sur la double page, on a « invité ». Invité, il y a un petit garçon avec la petite fille, toute belle, avec sa robe de danse, on pense, hein, parce que c'est une salle de danse, qui l'invite et ils se saluent tous les deux, l'un en face de l'autre. Et sur l'autre page, dans une rue, au coin d'une rue, on voit une dame, son sac à la main, une jolie robe, ses petits talons, qui est en train, le monsieur qui est en face d'elle, qui n'est pas tout jeune, loin de là, comme la dame, est en train de lui faire un baise-main. Voilà, donc il y a les deux générations qui se conjuguent. J'aime bien aussi une autre qui s'appelle Espérer. Alors Espérer, on voit sur le côté droit les pieds et la jupe d'une personne, d'une dame vraisemblablement, et un espèce de petit caniche qui est là, qui est debout, qui la regarde les yeux dans les yeux, il attend. Il attend et il espère. Il sait qu'il va se passer quelque chose, mais il sait pas quoi, mais il est là et il attend. Et c'est très drôle parce qu'on imagine bien, justement, la tête de la personne qui n'est pas dans la photo. C'était très joli de l'avoir coupée comme ça. Et j'aime bien aussi le verbe photographier. Alors, photographier, eh ben, on a tout simplement l'ombre sur le sol du photographe. Donc, on a son image à lui qui est là pour faire un clin d'œil. Une autre aussi qui est très savoureuse, j'aime bien, c'est souffler. Alors, il y a le petit garçon qui est devant son gâteau. Il a 1 an, il y a une bougie qui est allumée. Et vraisemblablement, il a l'air inquiet, il ne sait pas souffler. Et il doit y avoir sa grande sœur là qui arrive, qui lui pousse le menton et le haut de la tête pour essayer de le faire souffler. Mais apparemment, il n'y a pas l'air d'y avoir beaucoup de résultats. Ah, j'aime beaucoup celle-là, oui. Et puis, tiens, Claudine, une autre, regarde.
Voilà, ici, alors ici, nous avons joué. Alors, nous avons une longue photo. Nous avons un monsieur qui joue de la flûte au premier rang, suivi d'une dame, et suivi de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 enfants qui ont des tambours, des grosses caisses, qui sont en file indienne et qui tapent chacun sur leur instrument. C'est extrêmement drôle. Ça fait penser aux joueurs de flûte de Hamelin, suivis par ses rats. Mais non, là, ce sont des enfants avec des grosses caisses. On imagine le bruit que ça peut faire. C'est vraiment très drôle.
Après, encore une ou deux autres. Ah oui, alors, une qui s'appelle « Cachée ». Alors, il y a une grosse voiture qui est cachée, justement, sous une grande housse qui la couvre à peu près complètement. Et puis, devant, debout, il y a une mariée, mais une mariée qui est pas du tout en robe décolletée et tout, toute couverte avec son grand voile. On voit que du blanc. Elle est cachée aussi. Et puis, encore une ou deux autres. Ah oui, j'aime bien ça. Chercher. Alors, chercher, il y a un petit canard qui est au milieu de la route. Il est un petit peu, il regarde sur le côté. Il connaît pas, il voit pas où, sans doute, où est son chemin. Et à côté, il y a trouver. Et trouver, alors là, il y a sur le chemin une multitude de canards. Mais sur la photo, il doit y en avoir au moins 1000, si c'est pas plus. Alors, c'est très drôle, l'opposition entre les deux, c'était bien choisi, y compris le verbe. Et puis alors, il y en a une autre qui est un peu plus tragique, qui s'appelle « Se taire ». Et c'est devant le tableau de Guernica, de Picasso. Et une autre enfin, qui est très amusante, c'est le raconter.
Alors, et puis raconter. C'est...
Oui,
on a
vas-y.
On a deux illustrations. Donc, on a une maman qui est en train de lire un livre à un petit garçon qui a 2 ans environ, qui la regarde. Mais vraiment, il est fasciné par ce que sa maman lui raconte. Il y a une jolie lumière qui tombe sur le visage du petit garçon. C'est extraordinaire. Et la page en face, il y a un certain nombre de filles, 2, 3, 5, 6, une petite dizaine de filles qui sont en train de regarder une chèvre qui met la tête pas au-dessus de la porte. C'est peut-être la chèvre de Monsieur Seguin qui est en train de leur raconter son aventure. Les filles sont absolument fascinées, comme l'est le petit garçon de la page d'en face. Vraiment, ces deux photos sont très belles.
Oui, alors justement, comme je vous disais tout à l'heure, eh bien, c'est des photos qui amènent à parler, qui amènent à imaginer, qui amènent à imaginer ce qui se trouve autour, ce qui se trouve dessus, ou bien qui font appel à des souvenirs qu'on a. Elles sont souvent drôles, elles sont émouvantes, elles sont surprenantes, elles sont très cocasses. Elles sont pleines d'humour, même des fois de tendresse aussi. Et c'est en même temps, comme vous avez vu un peu, c'est aussi un lien entre les générations. N'importe qui peut trouver un plaisir fou à regarder ces photos. Et l'idée du lien par un seul mot, un verbe, c'est plutôt justement aussi déclencheur d'imaginaire. Beaucoup mieux que le serait un commentaire quelconque, même s'il était très réussi. C'est l'album qui est très réussi, oui. Pour les grands aussi bien que pour les petits. Donc c'est Le Petit Monde d'Eliot Erwitt, Irrésistible Eliot Erwitt, image choisie par Marie Houblon aux éditions Tourbillon.
Alors maintenant, un tout petit livre presque carré, un tout petit peu plus haut que large, et vraiment un format de poche, s'appelle « Je me demande » de Jostein Gaarder et Alkin Dusakin, je ne sais pas la prononciation, à la joie de lire. Donc Jostein Gaarder est un philosophe, c'est l'auteur du « Monde de Sophie », un roman philosophique qui a obtenu un succès considérable et qui a été traduit en 54 langues. Donc, ce qui prouve que ce doit être quelque chose de très intéressant. Voilà. Donc, voici un petit livre, bien sûr, écrit par un philosophe, traduit du norvégien, qui fait réfléchir, soulève des interrogations, stimule la réflexion. À gauche, le texte. À droite, les illustrations, en noir et blanc ou dans des tons passés comme de vieilles photos, sépia, beige, gris, vert, bleu. C'est un garçon qui s'interroge. Sur la couverture, sur un fond de mer et de ciel, il tient un coffret ancien fermé, sans doute plein de souvenirs. D'où vient le monde? Certaines choses existent-elles depuis toujours? Où tout a-t-il été créé à partir de rien? Ce sont les premières paroles du livre, donc ça commence très fort. À droite, on voit un enfant, un soir d'été, qui descend une colline en s'enfonçant dans les hautes herbes. Toutes les illustrations sont plutôt sombres. Alors, question, la vie est-elle apparue seulement sur notre planète? Ou l'univers entier en fourmille-t-il? Là, on voit l'enfant qui saute un fossé. Dans le ciel, 1000 étoiles scintillent, la nuit est tombée. On continue. Y a-t-il quelque part dans l'univers d'autres êtres aussi intelligents que nous? D'autres êtres, quelque part, qui comprennent le monde mieux que nous? Alors là, toujours dans la nuit sombre, l'enfant est debout à l'orée d'une haute forêt. Les anges existent-ils et les fantômes? Est-il déjà arrivé qu'une créature surnaturelle se montre aux hommes? Dans la forêt, une ombre semble suivre le jeune garçon. Et les illustrations racontent, pendant que l'enfant questionne toujours, « Pourquoi suis-je vivant? Mon meilleur ami peut-il être un animal? Qu'est-ce qui compte le plus dans la vie? Qu'ai-je envie de faire de ma vie? À quoi ressemblera le monde dans 1000 ans? Et aussi, existe-t-il un Dieu qui nous a créés? Ou est-ce simplement nous qui nous sommes créés une idée de Dieu? Et pendant ce temps-là, avec les images, on devine une histoire. Ils étaient deux frères jumeaux. Et l'autre frère, un jour, s'est noyé. Tout est seulement suggéré. Et on comprend que l'enfant s'interroge. Est-il possible que le sort de quelqu'un d'autre m'importe autant que le mien? Ce doit être terrible pour un jumeau de perdre son double. Mais les questions que l'enfant se pose sont universelles. Et c'est à chacun de trouver ses réponses. Alors dans les dernières pages, parce qu'il y a quand même beaucoup de pages, l'enfant est remonté près de la maison quittée dans la nuit au début du livre. Le jour se lève, la cheminée fume, tranquille. Le chien regarde le garçon qui souffle sur une fleur de pissenlit. Sur le rocher, près de lui, le carnet qu'a été aperçu tout au long de l'histoire. Une libellule passe. L'enfant semble prêt à écrire sur la page blanche. Qu'ai-je envie de faire de ma vie? Les graines de pissenlit s'envolent dans le paysage final. La vie continue, pleine de tous les possibles. Ce petit livre, très riche, nous semble vraiment intéressant à partager avec des collégiens dès 12 ans. Vraiment, c'est un petit livre, petit mais très important. Donc, c'est « Je me demande » de Jostine Gaarder, Akin Duzakin pour les illustrations, chez La Joie de lire. Nous le recommandons vivement. Voilà.
Je vous présente alors maintenant un livre qui est un peu plus compliqué, qui s'appelle « L'œuf » d'Anna Sommer et de Noyau, qui est le second auteur, chez Actes Sud, BD. C'est une bande dessinée. En fait, c'est comme un album. Voilà, alors c'est l'histoire d'un couple d'oiseaux qui couve un œuf. Et c'est un livre assez ébouriffant et même dérangeant, on dirait dérangeant dans le bon sens du terme. La couverture a des couleurs très chaleureuses, faites comme un petit collage de papier, des papiers collés aux couleurs vives, qui font penser un peu à quelque chose de rétro, un peu branché, un peu suranné aussi. Le résultat en tout cas est très beau, ça fait penser aussi à des couleurs de Chantal Thomas également, on pourrait dire. C'est très beau, alors je vais commencer par vous le lire. Et au début vous présentez que les pages de garde qui représentent beaucoup de nichoirs accrochés sur des arbres qui n'ont pas de feuilles mais qui ont des branches qui sont très découpées, très pointues, comme des barbelés presque un peu. Et il y a dans le fond qui se promènent des sortes de petits nuages qui pourraient être aussi des silhouettes de bébés peut-être qui se promènent et peut-être que c'est les habitants des nichoirs, on ne sait pas trop. Alors, la première page nous ouvre la chambre à coucher des deux oiseaux. Ils sont dans leur lit avec leurs draps à fleurs, en pyjama et en chemise de nuit. Et le commentaire... Colette est réveillée en pleine nuit par un objet lisse et rond qui touche son pied. « Robert, chuchote Colette, réveille-toi, il y a quelque chose d'étrange dans notre lit. » Page suivante. Une fois la lumière allumée, il découvre un œuf sous la couette. Quelle surprise! Colette et Robert sont tellement époustouflés qu'ils ne songent plus du tout à dormir. Donc ils sont là, il y a le papier fleuri de la chambre à coucher, la chemise de nuit blanche et le petit pyjama à petits pois du monsieur. Il y a aussi des cadres à chaque fois, à chaque page, que je vous expliquerai après. Il faut trouver un endroit chaud et douillet pour déposer cet œuf, dit Colette, et ils se mettent à chercher dans la maison. Le four est encore tiède, mais pas vraiment confortable. Finalement, ils posent l'œuf dans la corbeille à pain et la placent près du lit. Pour le surveiller, dit Colette, mais c'est surtout pour pouvoir l'admirer. Ils finissent tout de même par s'endormir, et ils s'endorment l'un contre l'autre dans cette chambre à coucher, toute bleue, toute rose. Avec, d'ailleurs, on voit, il y a un morceau de pain qui est par terre à côté des pantoufles de la maman, et sans doute elle n'a pas eu faim, ça l'a préoccupée, et elle n'a pas fini de manger. Le lendemain matin, Robert et Colette rayonnent de bonheur car l'œuf n'était pas qu'un rêve. Il est bien là, chacun à son tour, ils le tiennent au chaud en faisant très attention, un œuf c'est fragile. On voit le petit déjeuner qui est là, que sert le papa, parce que en fait ces animaux, ils ont rien d'animaux à part la tête, comme s'ils étaient juste un petit masque. C'est vraiment des humains. Un après-midi, Colette somnole près de la fenêtre et s'imagine son oisillon virevolter dans les airs en pépillant de joie. Un choc sourd arrache Colette à sa rêverie. Un matou, sans gêne, a découvert les délices posées sur la table et bondit par la fenêtre ouverte, rapide comme l'éclair. Malheur, l'œuf est tombé, au pas de bien haut. Et le tapis du salon est moelleux, mais Colette remarque qu'une petite fêlure parcourt la coquille. Elle est inquiète, elle est à genoux par terre. Le papa est derrière, juste là à côté. Il se précipite à l'hôpital. « Faites au plus vite, dit Robert au taxi. » Mais aussi doucement que possible sanglote Colette de son côté. Le chauffeur fait de son mieux. Page suivante, c'est l'hôpital. Le médecin ausculte l'œuf délicatement. « Il faut enlever le fil de laine, dit-il. Comment l'oiseau pourra-t-il sortir si l'œuf est ficelé ?» Colette et Robert n'y avaient pas pensé. De retour à la maison, ils continuent de couver l'œuf avec encore plus de précautions. Parfois, ils entendent l'oisillon toquer gentiment du bec. « Reste encore un peu, lui disent-ils, il est encore trop tôt pour éclore. » Ils sont là tous les deux un peu inquiets, mais toujours à côté de l'œuf, ils le couvent l'un et l'autre, à tour de rôle. Le temps passe, le pansement tient bon. Le soir, quand ils se couchent avec l'œuf, Colette et Robert sont soulagés qu'une nouvelle journée se soit écoulée sans dommage. Une nuit, Colette est réveillée et s'aperçoit que l'œuf est éclos. « Robert, lève-toi, notre petit est sorti !» Incrédule, il regarde la coquille vide. Encore tiède. Il ne trouve l'oisillon nulle part, ni sous la couette, ni sous le lit, ni sur la lampe, ni derrière la porte. Il remarque alors que la fenêtre est entrouverte. Leur petit oiseau s'est-il déjà envolé ? S'approchant de la fenêtre, Colette et Robert découvrent alors sur l'arbre du jardin une nuée de petits oiseaux qui sautillent et qui piaillent gaiement. Avant de prendre leur envol, dans le jour qui se lève, ils regardent, ils ont le regard surtout étonné, pas plus. Et puis, la dernière page, le papa et la maman, lui en pyjama, elle en chemise de nuit, sont perchés sur une branche d'arbre et regardent le ciel, qui est là, rose, avec des nuages et des légers nuages, et on retrouve la dernière page de garde avec les mêmes arbres écorchés qu'on avait au début. Alors c'est un livre qui est un petit peu interrogateur et qui pose des questions, d'autant plus que je ne vous ai pas raconté à chaque fois, mais il y a des petits cadres accrochés au mur sur chaque page de l'histoire et je vais vous dire ce qu'ils contiennent tous. Un homme nu accroché à une branche. Sur la page suivante, une femme nue qui vole en s'accrochant à une feuille. Puis après, une autre où elle parle à l'homme. Ils sont tous les deux. Un autre cadre avec une feuille qui leur sert de couverture. Un autre cadre encore où ils sont assis sur des branches. Un autre cadre, elle s'envole et lui la suit. Un autre cadre, ils sont comme deux écorchés. C'est vraiment deux écorchés. Puis ensuite, sur le tableau suivant, il y a deux squelettes. Puis ensuite, sur le tableau suivant, ils arrivent sur un nichoir d'oiseaux. Sur le tableau suivant, ils y rentrent. Et puis, le nichoir se renverse à un moment. Donc, ils sortent. Sur le tableau suivant, il se trouve que le bûcheron a coupé l'arbre. On comprend pourquoi le nichoir a été renversé. Et est-ce que c'est pour montrer à l'enfant comment les parents font un bébé? Est-ce qu'il s'agit de la conception du bébé? Ébouriffant, dérangeant, on ne sait plus que penser. Et alors la fin, que penser de l'histoire? En fait, c'est l'histoire d'un couple d'oiseaux qui couve un œuf et qui, finalement, n'y arrive pas parce que la grossesse se termine mal. Et on peut penser que c'est avant tout dans toutes les premières pages du livre et même la majorité des pages, on parle avant tout de l'amour que les parents se portent l'un l'autre et qu'ils portent pour le bébé qui va naître. Et si l'oisillon s'est envolé à la naissance, est-ce que c'est une grossesse qui se termine mal ou un deuil symbolique, on ne sait pas trop. Les parents restent stupéfaits devant la fenêtre ouverte, comme s'ils faisaient au revoir avec la main en plus. Et ensuite, quand ils sont sur la branche, on se dit que peut-être l'oiseau est parti avec les autres petits oiseaux qu'on rencontre sur les arbres et qui sont nombreux et qui pépillent gaiement, vous vous rappelez? Parce que certains, dans ce livre, ont vu une autre fin, beaucoup moins tragique. Ils ont pensé que c'est l'image des enfants qui quittent leurs parents pour voler de leurs propres ailes. De leurs propres ailes, c'est le cas de le dire, là. Les soins prodigués ne sont là que pour préparer le départ du nid. L'oisillon est allé retrouver tous les autres oiseaux sur une branche de l'arbre. Et le bûcheron qui coupe l'arbre montrerait justement que les enfants prennent leur essor et leur indépendance. Au sortir de l'œuf, ils n'appartiennent plus à leur géniteur. On protège l'enfant, d'accord, quand il est petit, mais après, eh bien, ce qui est dit, c'est qu'on le laisse grandir. Alors voici les deux possibilités. Cette fin est vraiment ouverte. Quel que soit le dénouement de l'histoire cependant, parce qu'on peut occulter les petits tableaux de chaque page ou pas, ce livre qui dérange un peu parle surtout de l'amour des parents qui attendent un enfant. Il explique aussi aux enfants les difficultés de la grossesse, la perte d'un enfant, mais il fait également comprendre que l'enfant a sa vie propre et indépendante. Et chacun peut y trouver son compte. Autant l'enfant que l'adulte, et c'est peut-être la richesse de ce livre. Donc je vous redis, L'œuf de Anna Sommer et Noyau, aux Actes Sud, édition Actes Sud, c'est une BD.
Voilà, alors notre dernier livre s'appelle « Mon monstre » de Marie Cellier, Jean-Luc Buquet, aux éditions Courtes et Longues. C'est un grand album à la couverture en carton bien épais. Sur fond brun, dans un halo plus clair, un lapin doudou, assis sur un lit, vêtu d'un pyjama à pois roses, se retourne pour nous regarder. Dans la double page de garde suivante, dans le petit coin gauche, il y a un lapin dans un pyjama à pois bleus qui joue du tambour. Le papier jaune paille utilisé pour ce livre est très agréable à toucher. On dirait du papier canson très épais et on a envie d'écrire dessus pour dessiner. À la double page suivante, rien à gauche. À droite, simplement un lit d'enfant où dort justement un garçon et le lapin doudou est allongé au pied du lit. Page suivante, même absence de décor, l'enfant dort et le lapin s'assied. On continue, on ne voit plus que le lapin assis au pied du lit. Je vais vous dire un secret. Alors, on continue à tourner les pages qui sont sans texte. Donc, on voit le lapin qui va sans doute nous dire quelque chose. Oui, il va nous révéler son secret. J'ai un monstre. Un monstre très vilain. Très vilain est imprimé en gros caractères, bien gras. Et le lapin tire une langue bien rouge. Un monstre qui crie aussi fort que ça. Et le lapin, comme une maîtresse d'école, nous montre des dessins enfantins et colorés sur le mur. Effectivement, ces bonhommes bâtons hurlent et même pleurent avec des larmes. Un monstre qui se roule par terre comme ça. Dessin du bonhomme qui se roule par terre et il est hilar, le bonhomme. Le lapin poursuit. Un monstre insupportable qui ne veut pas aller se coucher. Alors, l'illustration nous montre une maman lapin qui traîne contre son gré notre lapin hurlant, qui lui-même traîne son lapin doudou. Effectivement, page suivante, le lapin en pyjama saute sur son lit et ne veut pas se coucher. Et il continue à nous raconter. Un monstre qui parfois jette son assiette par terre. Un monstre qui dit non tout le temps. Et là, on a droit à une magnifique page, gribouillée de bouches hurlantes et de non, 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 de toutes les dimensions et de toutes les couleurs. Ah, ça fait du bien. Les enfants vont adorer cette page. Un monstre qui n'obéit pas à maman et pas à papa non plus. Alors là, les parents lapins sont couchés, mais ne dorment pas, car notre petit lapin joue de la trompette. La tête du papa lapin couché dans le lit est irrésistible. Un monstre qui tape son petit frère comme ça et qui parfois aussi le griffe. Alors toujours, on a pour illustrer des dessins d'enfants colorés. Là, un chat entre en scène. Pour l'instant, il est statique. Je le connais bien, ce monstre. C'est mon monstre. Et dans la glace du lavabo, on aperçoit le reflet du petit garçon. Et le lapin continue. Il fait exprès de me faire faire des bêtises. Alors là, on nous montre les bêtises. Le tambour, la trompette, le ballon avec lequel on a joué dans la maison qui a déplacé le cadre. Et puis plein de dessins gribouillés sur les murs. Et bien sûr, le chat attrapé par la queue. Et il n'écoute pas quand je lui dis de pas recommencer. Il n'écoute rien, mon monstre. Et cette fois, l'illustration nous montre le garçon en pyjama qui saute sur son lit en balançant le lapin par les oreilles. Page suivante, silence, pas de texte. On continue. Ils se recouchent tous les deux. Et voilà la chute. L'enfant dort et le lapin veille, mais c'est mon monstre à moi et je l'aime. Alors les dernières pages de garde, dans le petit coin droit, notre lapin, pyjama vert à points jaunes, joue de la trompette, un air final de toutes les couleurs. Ah, on est rassuré, ils s'aiment ces deux-là. Une histoire simple et profonde, des images fragiles et puissantes à la fois. L'illustrateur s'est amusé avec les couleurs. C'est un livre, un album à partager délicieusement avec son enfant dès 2-3 ans. Mon monstre, de Marie Cellier et Jean-Luc Buquet, chez Histoires courtes et longues. Donc voilà, notre émission est terminée. Nous aurons, nous l'espérons, le plaisir de vous retrouver le mois prochain. Alors le mois prochain, le comité de lecture aura lieu à la MJC, puisque c'est une fois sur deux qu'il est au Poivre d'Âne. Donc à 18h30, ce sera le 7 avril, et l'émission aura lieu le 9 avril. Voilà, nous remercions
Emeline
et Fréquence Mistral de nous accueillir.
Merci à vous et à très bientôt.
À bientôt, merci.
À très bientôt.
Yeah.